Bonjour à tous et bienvenue à votre Cinébrunch. Mon nom est Jim Boulay. Comme chaque semaine, je suis en compagnie d'André-Jean Rouleau et de Mélina Lopez-Nado. Bonjour, chers collègues.
Bonjour.
Bonjour.
Et cette semaine, on arrête de niaiser. Ça fait assez, Ça fait assez longtemps qu'on veut faire ça et qu'on le fait pas. Cette semaine, on va parler de nous-mêmes parce qu'on est cool, mais aussi parce qu'on doit apprendre à connaître notre nouveau co-animateur André-Jean, qui est là depuis quelques semaines avec nous. Et on sait rien de toi, André-Jean. Qui es-tu?
Non, j'espérais maintenir le suspense jusqu'à la fin de la saison, mais bon, visiblement, on s'en sortira pas ce soir. Ce matin, toujours ce problème.
Ben oui, hein, c'est incroyable.
Le décalage avec mon horaire.
Oui. Donc, merci, André-Jean. On va entendre tes choix et nos choix cinématographiques un peu plus tard. Donc, qu'est-ce qui nous représente dans le cinéma? On pourrait dire ça comme ça. On en parle en deuxième demi-heure d'émission. Sinon, dans quelques minutes, on va critiquer pour vous les films Casse-Noisette, Bohemian Rhapsody et Les Salopes ou le sucre naturel de la peau. Mais d'abord, quelques nouvelles, Mélina.
Oui, et en fait, moi, j'ai appris cette semaine qu'il semblerait que le créateur de Breaking Bad, Vince Gilligan, travaille présentement sur un film qui est basé sur la série.
Oh!
Donc, on a présentement très peu de détails, mais il semblerait que M. Gilligan scénariserait, produirait et possiblement réaliserait ce film-là. Mais c'est pas mal tout ce qu'on sait pour le moment.
Ça pique ma curiosité, moi qui suis un grand fan de la série, ou plutôt des séries qui tournent autour de cet univers.
Ben oui.
Intéressant. C'est pour quand? On sait pas.
On sait pas non plus.
À suivre. André-Jean.
Oui, eh bien, en ce qui me concerne, bon, vous allez l'apprendre à le voir un peu plus tard, mais pour tous les fans de films d'extraterrestres ou impliquant les extraterrestres, il y a plusieurs amateurs et amatrices, finalement, qui avaient probablement entendu parler d'un film qui s'en vient de Rupert Wyatt, qui est un producteur, un réalisateur plutôt britannique, qui avait promis, en fait, la sortie d'un nouveau film pour mai 2017. Bon, comme on peut le voir, échec total, mais ce n'est pas un projet qui mord. En réalité, c'est un projet qui devrait sortir au Canada, qui sera produit en fait par la maison Entertainment One de Toronto en mars 2019. Désolé, je suis un peu perdu.
Ah, mais OK, mais c'est quand même bientôt, là.
Oui, et puis comme je disais, bon, il y a toujours plusieurs... c'est mitigé, hein, les films sur les extraterrestres. On a souvent différentes versions. Il y en a eu des récents dans la dernière décennie qui nous donnaient d'autres opportunités. C'est pas juste des envahisseurs, etc. Là, l'approche est un peu la même. C'est-à-dire, c'est celle qu'on avait avant, c'est-à-dire qu'il faut avoir peur de ces formes de vie extraterrestres, hein, plus intelligentes que nous, etc. En réalité, par contre, ça pousse plus loin. C'est un film qui s'intitule « Captive State ». Bon, la traduction française n'existe toujours pas, donc ça sera « Captif de l'État »,« État captif ». Captif, simplement, on ne sait pas, mais John Goodman y participera, bien sûr, comme personnage principal. Et on nous permet. En fait, c'est un film dans lequel on devrait revisiter les tensions que ça peut provoquer entre les humains, c'est-à-dire qu'il y a. Bon, la Terre est envahie, bien sûr, et il y a des sympathisants à nos envahisseurs, et il y en a d'autres qui ne le sont pas, donc de la résistance. Où s'en ira tout ça? C'est quelque chose qu'on peut attendre, mais du moins, on peut l'attendre en mars 2019. C'est tombé maintenant.
C'est très intéressant. Il y a une série sur Netflix qui me fait penser beaucoup à ça. J'ai l'impression que c'est un monde très populaire en ce moment,
Ça reste un thème récurrent depuis les derniers 20 ans.
Bon, merveilleux. Et de mon côté, eh bien, j'ai deux petites choses très courtes à vous dire. Première chose, je vais vous faire entendre une bande-annonce, celle d'un nouveau film québécois qui a été dévoilé cette semaine. Le film s'appelle « Mon ami Walid ». C'est réalisé par Adib Al-Khalidé et Julien Lacroix. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a du gros casting et du gros monde là-dedans qu'on voit pas souvent. Dans la production, il y a notamment, parmi un nombre considérable de personnes, Laurent Paquin, Yanny Bédard, Jean-François Provençal, Sophie Cadieux, Isabelle Richer, Antoine Pilon, Christian Bégin, Guy Jodoin, Daniel Fichaud et j'en passe beaucoup. Donc, pas mal de monde connu dans cette chose-là. On écoute la bande-annonce.
Moi, j'ai pour mon dire que si j'ai pas choisi de naître, je peux pas choisir de mourir.
De toute façon, moi, je l'ai toujours dit, le meilleur des médicaments, c'est de voir du monde pire que toi. Viens-t'en.
Oh, hey!
beau, là. Mon ami, il va pas bien.
C'est très visuel, donc évidemment, vous n'aurez pas tout compris. Mais dans tous les cas, on nous donne un avant-goût de l'histoire. Walid est un homme dépressif qui veut s'enlever la vie. Au moment de passer à l'acte, il croise Antonin, qui décide d'en faire son meilleur ami, et les deux deviennent inséparables. C'est prévu pour janvier prochain, donc le film « Mon ami Walid » à suivre. Une comédie, mais peut-être pas cliché, typique comédie comme on en a l'habitude. Sinon, une autre nouvelle pour vous, qui n'est plus une nouvelle parce que c'est déjà dans le passé, mais Netflix nous a annoncé que le 6 novembre dernier était le Stranger Things Day, en hommage à la disparition du personnage de Will Byers dans la série maintenant culte Stranger Things. La saison 3, d'ailleurs, sera disponible l'été prochain, retardée évidemment parce qu'elle était censée être à l'automne, donc comme chaque année. Voilà, excellent. C'est tout pour les nouvelles. Cinébrunch commence. Reste avec nous. Mélina, tu es allée voir un film de princesse. Encore un film de princesse.
Encore un film de princesse, un film de Disney, en fait. C'est le film Casse-Noisette et les Quatre Royaumes. Donc, c'est un film avec des prises de vue réelles, donc des vrais personnages. Et bon, avant de rentrer dans la critique, je vais éclaircir certains points. Premièrement, l'histoire n'est pas la même que celle du ballet de Tchaïkovski en 1892. Donc, deuxièmement, c'est pas une comédie musicale. Et donc, à la base, Casse-Noisette et le roi des souris, c'est un roman allemand de Ernest Theodor Amadeus Hoffmann qui a été publié en 1816. Donc, Tchaïkovski et Marius Petipan ont fait un ballet en 1892. Mais le film que j'ai vu, Casse-Noisette et les Quatre Royaumes, ce n'est pas la même histoire, mais le personnage principal reste Clara. Donc, dans le film, tout ce que Clara veut est une clé spéciale qui ouvrira une boîte détenant un cadeau inestimable de sa défunte mère. Un fil d'or, reçu lors de la fête annuelle de Noël chez son parrain Drosselmeyer, l'amène vers la clé tant convoitée, qui disparaît soudainement dans un monde parallèle et étrange et mystérieux. Clara y rencontre un soldat nommé Philippe, un groupe de souris et les régents qui règnent sur trois royaumes, le royaume des flocons, le royaume des fleurs et le royaume des délices. Clara et Philippe devront affronter l'inquiétant quatrième royaume qui abrite la despotique mère Ginger afin de retrouver la clé de Clara et, avec un peu de chance, ramener l'harmonie à ce monde instable. Donc, ça a été réalisé par Joe Johnston et Lassie Hallstrom. Et donc, les acteurs sont Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren et Morgan Freeman. Donc, on va aller écouter la bande-annonce.
Joyeux Noël, Clara.
À vous aussi, parrain.
Ton cadeau cette année sera un objet inoubliable. Peu de gens ont conscience qu'il existe de par le monde des royaumes où règne le désordre. C'est toi qui détiens la clé de leur secret. Souviens-toi, Clara, on ne doit pas se fier aux apparences.
Où suis-je ? Donc, c'était la bande-annonce de Casse-Noisette et les Quatre Royaumes. Pour critiquer ce film, en fait, je vais le comparer à un autre film de Disney, le film Un raccourci dans le temps, A Wrinkle in Time, qu'on a vu plus tôt cette année. Oui, tu vas voir pourquoi je veux les critiquer, en fait, les comparer. En fait, c'est deux films dont les critiques vont être très similaires parce que c'est la même recette qui est appliquée. Puis c'est quand même un sujet dont il pourrait être intéressant de discuter un jour. La recette de Disney pour ces films-là, c'est d'avoir un budget supérieur à 100 millions de dollars.
C'est ça le secret, en fait.
Oui, okay. Non, mais vraiment, ce qui nous donne une critique similaire parce que ça permet de produire un super beau film au niveau technique, c'est-à-dire c'est visuellement vraiment magnifique, les effets spéciaux sont très réussis, l'environnement sonore aussi. Donc, c'est sûr que 100 millions de dollars, ça permet de créer quelque chose de vraiment spectaculaire, de créer des nouvelles choses. Mais c'est là que le film Un raccourci dans le temps est allé chercher ses points, tout comme le film Casse-Noisette. Maintenant, ça fait en sorte que la faiblesse reste la même. Ça reste toujours au niveau soit du scénario ou soit des acteurs. Donc, dans le film Un raccourci dans le temps, le problème, c'était le scénario. Dans Casse-Noisette aussi, Mais en plus, dans Casse-Noisette, au niveau de la direction d'acteurs, je suis vraiment pas contente. Je suis vraiment une grande fan de Keira Knightley. Mais dans ce film-là, vraiment pas du tout. Elle était clairement hors de sa zone, loin de sa zone de confort. Et je trouvais que c'était juste... Elle l'avait juste pas. C'était juste pas crédible.
Ah bon?
Oui. Donc,
c'est décevant.
Grosse déception de ce côté-là. Et en plus, sinon, au niveau du scénario, c'est sûr qu'il faut pas s'attendre à ce que le film soit une adaptation du ballet. Donc, il y a très, très
peu... Oui, parce
peu...
que toi, t'as vu le ballet.
Oui, moi, j'ai connu l'histoire par le ballet. Mais c'est, dans le film, il y a une scène de danse.
Mais donc, il y a eu des dessins animés de Casse-Noisette. Moi, quand j'étais jeune, ça a été fait en dessin animé. Mais là, Disney essaie de tout refaire, ses affaires en action movie, là, comme on dit.
Oui, et c'est pas la même histoire que le ballet.
OK.
OK, carrément.
Donc, on sort complètement de l'histoire. On utilise l'univers, mais c'est pas pareil.
C'est le même personnage, mais c'est pas du tout la même histoire.
OK.
Et donc, il y a quand même un lien entre les deux, c'est-à-dire que la deuxième partie du ballet de Casse-Noisette, si vous l'avez vu, on se promène dans les quatre royaumes et c'est les danses internationales un peu partout dans le monde. Donc, c'est un peu ça qu'on ramène dans le film. Donc, il y a un lien là, mais c'est pas du tout la même histoire. Et comme je disais, il y a très peu de scènes dansées. Donc, ça peut décevoir des gens qui s'attendaient à voir une adaptation du ballet à l'écran. Et c'est pas ça, c'est une adaptation du conte à l'écran, du conte qui a servi à créer le ballet. Donc, c'est comme si on prenait une
OK,
une,
on retourne à la
distincte.
Source
Exactement.
De l'histoire originale.
Vous y allez en pensant histoire de racontée par Disney, en fait.
Exactement. Okay. Bref, tout comme le film Un raccourci dans le temps, Casse-Noisette, c'est un film qui est fort techniquement, mais qui déçoit par son manque de profondeur et d'authenticité. Donc, je donne un 5 sur 10.
Wow.
C'est quand même...
C'était pas bon, là.
Premier uppercut que je vois de ta part, c'est...
Ouais, mais tout comme le film Un raccourci dans le temps, c'est un divertissement plutôt facile pour les jeunes enfants, c'est-à-dire qu'ils vont être probablement très comblés par la richesse visuelle et sonore du film, mais ça risque d'être beaucoup moins intéressant pour ceux qui essaient d'y trouver un sens plus profond ou qui ont un fort attachement émotionnel au ballet de Tchaïkovski. Donc voilà, encore une fois, Disney, avec sa recette, on met beaucoup d'argent, on fait des choses qui sont techniquement très belles, mais il manque, selon moi, d'authenticité, encore une fois, au niveau du scénario, tout comme le film Un raccourci dans le temps, A Wrinkle in Time, qui je pense qu'on avait donné une note aussi...
Moi, j'ai détesté A Wrinkle in Time. Minute, tu l'avais aimé un peu plus que moi. Moi, j'avais vu plein de références religieuses à peine dissimulées, bizarres, sournoises.
Ça reste Disney, hein?
Ouais, mais
dans le sens où on pourra en parler, parce
c'était
qu'il y a
très
dire,
particulier, là. C'est un film. D'ailleurs, il est sur Netflix en ce moment, ceux qui veulent voir A Wrinkle in Time. C'est un film...
Au niveau du scénario, c'est un film
bizarre.
Très particulier. Ouais.
C'est un film... Okay. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Ça suit... L'histoire se résume en une ligne. Et honnêtement, c'est pas convaincant.
C'est ça.
Mais c'est extrêmement beau.
Exactement, c'est ça. C'est le 100 millions de dollars et plus qui vient...
C'est dans les plus beaux paysages que j'ai vus depuis Avatar, c'est dans ce film.
Donc, conclusion, Casse-Noisette, on y va, mais on y va en famille.
C'est ça, exactement.
On a les enfants qui, eux, vont avoir probablement du plaisir.
Exactement.
Eh bien, espérons-le. Ben, merci beaucoup, Mélina.
Merci.
Cette semaine, André-Jean, tu es allé voir le film Reine, ou plutôt le film Queen, ou plutôt Bohemian Rhapsody.
Ben, on va se le dire, Bohemian Rhapsody. Et vous allez, je le dis tout de suite, là, vous allez devoir m'excuser. En fait, tout mon auditoire devoir m'excuser de mes anglicismes, parce que je vais peut-être en utiliser quelques-uns comme ça à la volée.
Ben, c'est très bien. On va prendre les lettres de plainte et te les acheminer par la poste.
Donc, effectivement, je suis allé voir Bohemian Rhapsody, hein, qui est un film biographique américain encore, qui est sorti à la Maison du cinéma depuis le 2 novembre, en fait, vendredi dernier. Réalisé, bien sûr, par Bryan Singer, notre réalisateur, producteur et scénariste américain, bien sûr, qu'on a connu plutôt pour les fameuses, les débuts de X-Men, soit X-Men le commencement en 2011 et X-Men jour d'un présent passé. En 2014, ainsi que X-Men l'Apocalypse en 2016.
Moi, je suis comme surpris.
Personnellement, ça m'a perturbé profondément quand j'ai vu ça, parce que je me suis dit,
on est loin d'X-Men.
Ben, pas mal. Mais en même temps, pas tant que ça. C'est-à-dire que je vais faire des parallèles avec ça dans ma critique un peu plus tard, finalement.
Il y a du monde qui ont des griffes là-dedans.
Rapidement comme ça, distribution assez impressionnante, mais pas de gens nécessairement pleinement connus, en fait. Donc, on a un Irlandais, Aidan Gillen, Lucy Bunton, l'Anglo-Américaine, le Canado-Américain Mike Myers, qui est totalement, pratiquement non perçu dans le... difficile à reconnaître.
Ne pas confondre avec le personnage de film d'horreur.
Oui. Voilà. Non, pas du tout. Joseph, non, mais Mike Myers, celui qu'on connaît tous, bien sûr, Austin Powers, désolé. Donc, Mike Myers, le Canado-Américain qu'on connaît pour les films Austin Powers, entre autres, Joseph Manzello, l'Américain, Tom Hollander, l'Anglais, et le personnage principal, bien sûr, qui a le rôle principal, l'Américain Rami Malek. Écoutez, je vous propose tout de suite d'aller à la bande-annonce.
Allons-y.
J'ai bien aimé le concert. Et aussi, j'écris des morceaux.
Notre chanteur nous abandonne.
Alors il vous en faut un nouveau.
J'adore te voir bouger sur scène. Tu as toute la salle à tes pieds. Tu vois pas que l'avenir t'appartient.
Personne veut nous passer à la radio. Il faut qu'on soit expérimentaux.
Refais-nous ça.
Donc, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, vous venez bien d'entendre la bande-annonce de Bohemian Rhapsody.
Quand même intéressant, très musical comme bande-annonce.
Oui, et effectivement, en fait, c'est ça. On est dans le... c'est une, comme je le disais, biographie très, très intimiste du groupe. C'est-à-dire qu'on revient sur le parcours du groupe Queen et de son lead singer, hein, voilà mon premier anglicisme, ou leur leader, Freddie Mercury. Freddie Mercury.
On demeure dans l'horreur, à quelque part. Là.
Oui. Ben, en fait, il s'est rebaptisé, hein, bien sûr. C'était pas son nom à la base. On le voit un peu dans le film, bien sûr. On les voit, en fait, durant le film de la formation du groupe en 1970 jusqu'à l'apparition qu'ils ont fait au concert Live Aid qui a eu lieu en 1985. Donc, ici, version très, très épurée de l'histoire du groupe. On entre de façon très choisie, et je vais m'expliquer un peu plus tard là-dedans, dans la vie privée des membres du groupe, une célébration de la musique et de l'incroyable, du démesuré Freddie Mercury, finalement.
C'est exubérant.
Mais on tombe pas nécessairement dans les... on romance autour du thème du groupe et de leur choix, mais on tombe pas dans le personnel, dans le privé. Comme on se rappelle, là où certains se rappelleront, et encore là, je me dévoile au niveau de mon âge, dans les années 80, les journalistes faisaient systématiquement aller voir dans le linge sale des artistes.
Ouais. Là, c'est encore le cas dans certains pays.
Oui, mais ici, en tout cas, il y a une petite réserve, parce qu'il y a des acteurs aussi qui ont mis leur point sur la table en disant « Pourquoi vous voulez savoir avec qui je couche? En quoi ça vous concerne? » Ce genre de choses. À l'époque, ça commençait. Et là, il y a plusieurs fans, justement, de Queen qui vont peut-être... pas être désolés, mais qui vont... On n'insiste pas là-dessus. Hein? C'est-à-dire qu'on met vraiment... l'emphase sur le message, c'est-à-dire le plaisir que le groupe avait de jouer ensemble, comment Freddie voyait son propre groupe, qu'est-ce qu'il avait à faire, qu'est-ce qui devait être fait pour eux au niveau musical, quelles étaient leurs visions. Et donc, on reste plutôt sur le... Comment je pourrais dire? On était avec des bonnes personnes, en fait, qui voulaient et qui souhaitaient le bien pour tout le monde. Malheureusement, bon, tout le monde sait un peu l'histoire du chanteur, hein, qui a sombré un petit peu dans le plaisir à outrance jusqu'à provoquer une certaine tension, voire vouloir se sortir du groupe pour faire des albums solo qui n'ont pas jamais vraiment marqué. Mais l'emphase n'est pas mise sur sa vie privée à lui, mais plutôt sur l'ambiance que le groupe avait.
Donc, on parle bien du groupe Queen, pour qu'il n'y ait pas de confusion.
Oui, je vais revenir. Effectivement, Queen, ce merveilleux groupe que tout le monde connaît, qu'on fredonne du début à la fin, on va se le dire. Hein. D'abord, l'acteur principal fait un jeu absolument phénoménal. Il y a un rendu là, de la démesure du personnage qui est, dès le début, en fait, même, dès son apparition dans le groupe, dans la formation du groupe, d'une extravagance marquante. Moi, au niveau de l'acteur principal, il y a un défi totalement atteint. C'est-à-dire arriver à incarner... Oui, mais c'est ça, c'était un gros personnage. Hein. Au-delà du groupe Queen, tout le monde savait Freddie Mercury. Non rebaptisé, made up person. C'est une construction complètement. C'est un personnage, cet individu-là. On était dans l'époque du début des drags, etc. T'sais, drag queen, bien sûr, pour faire un petit clin d'œil à ce merveilleux groupe. Des plans judicieusement choisis, tantôt, qui vont nous amener à vivre, à rentrer dans l'intimité du groupe, dans le sens de leur proximité émotive. Tout à l'heure, après ça, nous ramènerons tout simplement à l'état d'esprit ou d'altération que le chanteur peut vivre dans certaines parties de sa période un peu plus « hey, hey », si je peux me permettre. Et là, il y a le petit plan de caméra qui parfois peut être fatigant, mais qui m'a permis de faire le lien avec justement tous les X-Men, finalement, des plans carrément faits par drone. Là.
OK, fait que le côté technique au niveau du tournage,
ben, je
reconnais
dois avouer,
le style d'X-Men.
Oui, dans le sens où le film de super-héros, c'est-à-dire, c'est des plans de caméra qui sont trop suivis et en même temps complètement surréaliste, qu'on ne peut pas faire avec une grue ou ce genre de choses. Ça dépasse complètement l'entendement. On entre après ça. Il y a les plans finaux là, du concert de Live Aid en 1985. C'est absolument incroyable. Et là, il y a une potentielle émotion qui est accessible pour le fan de Queen, dû au fait qu'on s'est fait amener tout le long du film dans cet état-là, finalement, et donc le côté démesuré des plans de caméra nous amène à l'émotif. En tout cas, moi, je me suis fait prendre totalement.
Oh,
alors
c'est
intéressant. Ben, comme je le rappelais, je l'avais dit, moi, c'est pas mon type vraiment films biographiques, mais bon, pour une raison obscure, je me retrouve à aller les voir, et c'est avec grand plaisir que j'ai vu celui-là, on va se le dire. La trame sonore, ben, même si vous êtes pas un fan, vous allez finir, on les a tous entendus, ces succès-là, vous allez taper du pied inévitablement.
Bon.
Même si on n'est pas... Exactement. Même si on n'est pas des fans finis, c'est
complètement... Non, c'est ça.
We will rock you,
ben
définitivement.
Oui.
écoutez, au niveau de la... Pour terminer ma critique, je dirais qu'au niveau de la mise en scène, de façon générale, on s'approche tellement du groupe, comme je vous disais, qu'il n'est pas... Tout au long du film, il y a une belle amenée, en fait, qui fait qu'à la fin... je dis pas que vous avez tous pleuré, là, mais moi, j'ai été surpris par ma réaction parce que j'étais trop pris dans le personnage, dans l'historique. On a vécu tout avec eux autres, comme je dis, sans tomber dans le triste, dépressif de certains membres du groupe, du moins.
Ouais.
Donc, au niveau... Je dirais que c'est ça va être un film biographique qui va plaire à tous, mais qui va peut-être laisser un petit peu sur leur appétit les fans... De la biographie, qui aurait déjà lu la biographie du chanteur, finalement, qui a paru en 2012, là, en fait.
Qui
c'est Mercury,
plus,
biographie hein. intime de Freddie Mercury, qui probablement se serait attendu à... voyez-vous, c'est comme on en a parlé il y a quelques semaines avec First Man sur Neil Armstrong. Il y a toujours une intention quand on fait un film biographique, et dans celle-là, on ne peut pas faire autrement que d'apprécier, c'est-à-dire l'angle qui a été donné. Moi, de mon point de vue, là, c'est sûr que bon, j'ai entendu des commentaires en sortant de salle où les gens étaient plutôt... mais là, on parlait de fans finis qui auraient aimé rester dans le sensationnalisme. C'est ça que j'ai perçu dans le commentaire. Du moins, j'aurais dû leur parler, mais parce que j'ai pas pu vérifier. C'est comme si les gens auraient voulu en savoir plus sur la vie intime du personnage. Qu'est-ce qui l'a amené réellement en dépression, etc. C'était visiblement pas le point du producteur ou du réalisateur dans ce cas-là, et je l'apprécie beaucoup. C'est-à-dire que c'est une touche positive du début à la fin. Autant dans sa façon d'entrer dans le groupe qu'à la toute fin, finalement. On se rend compte que malgré le fait qu'il s'est peut-être perdu, hein, parce qu'on s'entend, là, on parle d'un petit band qui jouait dans des salles collégiales, finalement, et qui ont fini à jouer devant... c'est aucun sens, là, c'est la demesure. T'sais. Un nombre de satellites comme ça, pour rediffuser le show, le concert Live Aid, ça s'était jamais vu, en fait. T'sais, là, je crois qu'il y avait 13, 11 ou 13 satellites, alors que le plus gros spectacle qui avait été fait, on avait utilisé 7 au début des années 80, finalement. Donc, c'est absolument fou, et on comprend... En tout cas, ça permet de comprendre quand même les faits. C'est-à-dire qu'un artiste qui passe de zéro comme ça à... Puis on l'a après ça, je dis zéro, pas seulement au niveau revenu, au niveau de sa vie. Hein. Il a toujours été remis en question parce que son identité lui-même n'était pas claire. On se rend compte qu'il y avait... c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. On met l'emphase sur l'amour que cet homme-là avait pour la musique, qu'il avait pour les gens autour de lui, malgré le fait qu'il... En fait, c'est un amour qui était tellement démesuré que lui-même s'empêchait d'être ce qu'il était. Et ce qui a mené inévitablement, ses fans pourraient le dire, là, on pourrait dire, je dirais pas de décadence, là, je veux pas manquer de respect à l'esprit. Ben ouais, à cette période sombre qu'il y a eu, et il a terminé quand même sur quelque chose de très, très positif. Et ça, ben, je pense que c'est pour ça, je pense que le choix du réalisateur, moi, je suis en accord sur le principe qu'on met l'emphase plutôt sur le positif de tout ce qui est sorti de ce merveilleux groupe Queen, finalement.
Eh bien, fort intéressant.
C'est vraiment intéressant.
Ben oui, au final, comme je dis, même si c'est pas mon style de film, j'ai pas le choix de donner un 8 sur 10 parce que c'est bien amené. Bon, c'est sûr que moi, j'avais pas la frustration que d'autres avaient, mais je comprends le choix qui a été fait. Donc, c'est un 8 sur 10 bien tapé, là.
Super. Excellent. Ça donne envie.
Excellent. Merci beaucoup, André-Jean.
Un plaisir.
C'est le moment des sorties cinéma.
Je suis sorti.
Donc, les sorties cette semaine, on a le film français de Gilles Lelouch, Le Grand Bain.
Tu t'en sens capable de ça? Bon, tu sais nager au moins?
Ouais, pas mal, enfin...
Bon, ben c'est bon, t'es dans l'équipe.
Oh putain, le portail de merde!
Championnat du monde, c'est un fantasme.
Qui est pour? Hop, allez, c'est bon.
Qu'est-ce que j'écris, là?
Équipe de France.
Et pourquoi pas les hommes dauphins?
Non. Arrête,
Qu'est-ce que vous croyez, hein? C'est comme ça que vous allez gagner?
Je veux juste participer.
Participer, fils de pute! Non, arrête de rigoler, vous allez tous vous mettre en tenue, on va aller courir!
Je peux pas mes habits pour courir, là. Ah bon, on s'en fiche.
Ensuite, on a le film Dr. Seuss, le grincheux.
Max! Vous êtes méchant, monsieur Grinch. Vous êtes un vrai bandit, aussi câlin qu'un cactus ou qu'une vipère aigrie, monsieur Grinch. Aussi infect et gluant qu'une banane pourrie.
Donc, le retour du Grinch bien décidé à gâcher la fête de Noël. Et ensuite, on a le film Millennium, ce qui ne me tue pas. Donc, un nouveau volet de la saga amené par la hackeuse Lisbeth Salander.
Pourquoi tu as aidé tout le monde sauf moi? Hein, ma sœur?
C'est elle. C'est elle qui est derrière tout ça. La souffrance doit toujours peser sur quelqu'un. Maintenant, c'est ton tour.
Et finalement, le film Overlord, qui est un film réalisé par Julius Avery et qui est quand même produit par J.J. Abrams.
Et je suis là, sans savoir où je vais finir. Il y a quoi derrière ce mur? Vous leur faites quoi à ces gens?
On donne un sens à leur existence.
Voilà, c'est tout pour les sorties cette semaine.
De retour à Cinébrunch, dans quelques minutes, on va vous parler des films qui nous ont le plus marqués. Ça va vous permettre de nous connaître et de connaître notre nouveau co-animateur André-Jean Rouleau. Mais avant d'en arriver là, je vais vous parler d'un film que j'ai vu cette semaine et en faire la critique. Le film s'appelle « Les salopes ou le sucre naturel de la peau ». C'est un drame québécois de René Beaulieu, René Beaulieu, donc une femme. Ça met en vedette Brigitte Poupard, Vincent Leclerc, Nathalie Cavazzali, Romane Denis et accessoirement Normand Damour et Paul Amarani, que j'avais pas vu depuis longtemps au cinéma, mais que j'aime bien, donc Paul Amarani, s'est classé 16 ans et plus pour érotisme. On écoute la bande-annonce.
Tu crois que des mots peuvent séduire une femme comme moi?
Absolument. Les mots peuvent tout.
Tu tapes le voisin aussi?
J'ai marié une salope.
L'équilibre et l'avenir de nos enfants passent pas par ce que je fais ou je fais pas avec mon corps.
On revient pas que tu m'aies rien dit. En tout cas, tu pourras plus jamais me faire la leçon, salope.
Donc, je vais vous raconter un peu l'histoire de ce film Les salopes. Marie-Claire enseigne à l'université en biologie. Elle s'intéresse plus précisément aux cellules de la peau. Elle est mariée, a deux enfants. Particularité dans sa relation, son couple est ouvert et lui permet de s'envoyer en l'air avec qui elle veut. Elle ne s'en prive pas. Elle s'intéresse au nouveau projet de recherche d'une étudiante qui tente de faire des corrélations entre l'amour, le désir et les réactions des cellules dermiques. et fait même ses propres expériences à ce sujet. On ajoute à ça une histoire d'agression sexuelle qui se passe à l'université, une amie névrosée, désespérée émotionnellement qui court après à peu près n'importe quel gars, et des difficultés dans son couple. Sa fille, qui vit une adolescence précoce, lui donne du fil à retordre, bref, pas mal d'affaires pour Marie-Claire. Déjà, au niveau du jeu des acteurs, c'est relativement bien, mais un peu inégal. Je dirais qu'il y a beaucoup d'acteurs de soutien dans ce film-là parce qu'elle a beaucoup d'amants, Marie-Claire, donc ça donne des choses comme ça. Comme beaucoup de films québécois, on ajoute des scènes style art contemporain, complètement surréalistes et métaphoriques pour illustrer des choses sans nous expliquer trop pourquoi. C'est le cas ici avec des scènes de nudité à l'extérieur, alors que les gens sont pas à l'extérieur. Donc, je suis pas un grand fan de ce procédé-là, là, un peu contemporain. Surtout, en fait, que à un moment donné dans le film, on en fait une scène comme ça, et on a un personnage noir qui descend les escaliers nu. Et on nous met une musique tribale. Et j'ai trouvé ça un peu malaisant, ouais. Honnêtement. J'ai trouvé que c'était un peu cliché, je sais pas. Ouais, quelque chose de...
Mais est-ce qu'il y a-tu un effet atteint? Y a-tu un désir? Pour... Clairement, si c'est pas fait par hasard. Là. Oh. Ça n'a pas marché avec toi, finalement.
Ben, moi, ces affaires-là, ça marche juste pas jamais. Non, moi, c'est... Écoute, j'aime tout ce qui est contemporain. J'aime pas quand on se dit, tiens, j'ai un petit 10 minutes à meubler dans mon film. Je veux faire une scène contemporaine. Je te donne carte blanche au niveau artistique. Fais-moi quelque chose de okay. Space un peu. J'aime pas ça. Je trouve que ça détruit le rythme du film. On sort du contexte. Dans ce cas-ci, c'est un peu bizarre. On reproduit le même genre de scène un peu plus tard dans le film. Voilà. Donc ça, personnellement, c'est un gros non. Sinon, je dirais que c'est un film assez lourd en soi. Donc, malgré le thème, même le titre, salope, c'est assez lourd, il y a très peu de rire durant le film, c'est un drame léger, mais quand même un drame. Bon, 16 ans et plus pour érotisme. Alors, on va se dire les vraies choses, ça fournique pas mal tout le long du film. Donc, ça non, s'en va en l'air, voilà, de façon...
Toi, t'aurais-tu mis un âge plus élevé encore?
Ben, non, pas du tout, en fait, même à fait, en fait. André-Jean, mm-hmm. Pour être honnête, je n'ai pas d'opinion là-dessus, mais... Bon, après, est-ce qu'à 16 ans, les jeunes ont pas vu des affaires pas mal pires que ça? C'est un autre débat.
Oui, non, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que je vais être choqué, moi, personnellement,
oh non,
si j'y vais pas?
Okay. Bon, moi, tu sois très, très, très prude au niveau de la nudité.
Moi, ça
mais,
n'a aucun sens.
Mais oui, ben, dans ce cas-là, non. Non, il y a beaucoup de scènes de nu, il y a beaucoup de scènes de coït, il y a beaucoup de choses comme ça. On ne voit pas nécessairement tout, mais on voit beaucoup et on suggère beaucoup. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on essaie de montrer dans ce film-là? Parce que, bon, on ne dérange pas à la folie dans le film, avec la nudité. Il y en a beaucoup, ça peut créer des malaises. Mais, en gros, qu'est-ce qu'on essaie de montrer, de dire dans ce film-là? Est-ce que c'est ce que vivent les femmes par rapport à leur sexualité, à l'amour, au désir? Est-ce que c'est la science de l'amour et de la peau? Est-ce que c'est le couple, l'exclusivité et la famille? Est-ce que c'est la victimisation versus l'affirmation de soi, la génétique et la nymphomanie? Honnêtement, il y a trop d'affaires dans ce film-là, sans qu'on aille au bout de quoi que ce soit. C'est le gros problème du film. Le scénario est riche et complexe, mais en même temps, on couvre trop large. On couvre trop large pour avoir un vrai impact. En tout cas, sur moi, c'était ça le problème. Je sors pas de la salle avec un cheminement de pensée, une remise en question, comme c'est arrivé la semaine dernière avec le film Wolf. Mm-hmm. Dans ce cas-ci, je suis sorti avec une question, et c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'elle essayait de me dire? Et okay. Je suis toujours sans réponse. Probablement qu'elle a répondu dans les médias, mais je considère qu'un film qui va en salle doit parler par lui-même. Donc, je dirais que c'est ce qui fait que c'est pas un film choc. C'est pas un film wow. Il y avait plein de pistes de début de quelque chose un peu partout dans le film. Mais ça lève pas, ça lève pas, comme on dit.
J'ai pas voulu rire,
dans un film sur le sexe, quand ça lève pas.
Mais techniquement, t'es même pas sorti. C'est dans le sens où ça va pas assez loin pour que tu sois sorti de la salle avec un profond malaise sur, mettons, l'accumulation des thèmes modernes et peut-être un peu inquiétants de où s'en va-t-on relationnellement, etc.
Ben, je sens que c'est un peu par là qu'on voulait nous amener, mais le problème, c'est qu'on n'a pas abouti aucune des histoires.
Okay, okay, okay.
Et puis, moi, je suis sorti de là avec. OK, est-ce que je suis juste pas le public pour ce film-là? En même temps, les personnages sont relativement âgés. Là. On fait pas des trucs avec des adolescents là-dedans. Là. C'est pas un film d'ado.
OK.
Puis pourtant, même là, j'arrive pas à me voir. Je vois pas non plus tant que ça, le gros clash culturel au niveau générationnel, au niveau du sexisme, au niveau de l'ouverture d'esprit, au niveau de la sexualité. On en parle un peu, on va un peu là-dedans, mais ça s'arrête, c'est prudent, c'est un film extrêmement prudent. On touche la question de l'agression sexuelle, comment va s'en sortir l'agresseur, de la perception de l'agression, même du point de vue d'une femme.
OK.
Il y a une scène intéressante où la personne, où quelqu'un pose la question suivante, je vais essayer d'être le plus vague possible, quelqu'un pose la question suivante à la victime de l'agression, puis elle lui dit « Vas-tu tout abandonner pour ça? Vas-tu tout laisser tomber ta carrière? Vas-tu laisser tomber ton parcours, ton cheminement d'études pour ça? Est-ce que c'est ça que tu veux? » Puis c'est peut-être le point où on sent qu'on est le plus dans l'actualité, là.
OK.
Sinon, honnêtement, j'ai pas compris vraiment où ça s'en allait, ce film-là. Je sais pas. Puis l'autre chose aussi, c'est que j'aurais vraiment aimé en savoir plus sur les circonstances du fameux couple ouvert. Pourquoi? Comment ça s'est passé? Parce qu'on dirait que le mari était pas au courant, là, tellement il réagit fort, là. Comme on
sent... OK, OK.
Ça manque, dans la bande-annonce que ça nous montre.
Oui, c'est ça que ça nous montre, exactement. D'ailleurs, la bande-annonce a dit un peu trop de choses. Il restait plus beaucoup de choses.
Okay.
Qui n'était pas dans la bande-annonce. Oui, évidemment, on était un peu plus dans le film, là, mais ça révèle trop. Puis en même temps, ce que ça a révélé a influencé un peu la façon dont j'ai perçu l'intrigue, que je m'attendais, à quoi je m'attendais pendant le film, parce que je me disais, la fameuse scène où il va dire « J'ai marié une salope » va arriver.
Mm-hmm.
Là, en ce moment, tu me donnes rien qui me justifie ça. Là.
Okay, c'est pas allé assez
comment
loin.
Ça va se passer? Puis la fameuse révélation de ça se fait dans un contexte un peu bizarre et particulier. Et c'est là qu'on apprend que c'est un couple ouvert. Hein?
Okay.
Mais dans le synopsis, c'est dit que c'est un couple ouvert, sinon je vous en aurais pas parlé. Dans le synopsis, ça dit très bien qu'elle est dans un couple ouvert, mais ça, on l'apprend aux deux tiers du film.
Okay.
Fait que ça, c'est tous des points dérangeants pour moi. Après, c'est pas un film botché non plus. C'est un film, je remarque, beaucoup de travail au niveau de scénarisation, beaucoup de travail au niveau du développement des personnages. On lui donne beaucoup, beaucoup de profondeur. Ce qui n'est pas toujours le cas avec des thèmes comme ça. On va souvent être prudent, on va pas voir là-dedans. Ça, c'est un point très positif. Mais bon, en tout cas, dans tous les cas, je donne ma note 7 sur 10 pour le film Les salopes ou le sucre naturel de la peau. Le film est disponible en salle en ce moment. Si vous avez envie d'aller voir un film qui va vous faire vivre différentes choses concernant la sexualité, concernant l'inclusivité ou l'exclusivité amoureuse, c'est intéressant, mais vous n'aurez pas l'effet Wolf, j'ai envie de dire. Vous n'aurez pas l'effet, en tout cas, j'en doute fortement. Ouais. En sortant de là, on ne sort pas avec « Aïe, 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 je viens de vivre quelque chose, j'ai besoin de décanter. »
Est-ce que c'était restreint à une clientèle particulière, un public
cible? Les gens étaient relativement âgés dans la salle. Okay. C'est moi un peu étonné. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus
jeune,
milieu.
Justement, à cause du thème, ouais.
Peut-être pas jeune, là. C'est pas un film d'ado non plus, mais je m'attendais à une moyenne dans la trentaine, quarantaine. Il y avait beaucoup plus de gens en haut de 50 ans que j'aurais cru penser.
Okay.
Donc, voilà. Mais bon, c'est ça. Il y a beaucoup de scènes de sexe qui... honnêtement, je suis un peu triste de vous le dire, mais qui n'apporte pas tant que ça à l'histoire. C'est dilué, c'est la façon dont c'est fait. C'est intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé, j'en ai pas parlé, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement le fait qu'on prenne Brigitte Poupard comme actrice pour faire ça. Je trouve ça bien avoir pris une adolescente ou une jeune fille avec des formes vraiment plus clichés, plus traditionnelles, comme on voit dans les revues, dans les magazines. Ça aurait été... définitivement moins fort, moins crédible, moins vrai. Là, on s'attarde pas tant à la superficialité du corps tant qu'à sa signification, sa symbolique. Ça, c'est vraiment un point positif du film.
Okay.
Mais sinon, voilà, ça a pas levé pour moi. voilà.
Dans tous les sens, mais je veux pas savoir ce que tu fais quand tu sors
de
salle.
Non, ça a pas levé dans aucun sens. Donc, ça peut te rassurer, André-Jean.
Oui.
Alors voilà, c'est tout pour ma critique.
Ouais. Ben, merci à toi, Jim.
Ben, merci beaucoup.
C'est le moment du top 3.
C'est le moment du top 3 cette semaine, le top 3 des films qui nous représentent. Donc, on a choisi chacun, individuellement, 3 films qui nous représentent, qui nous définissent, et on va expliquer pourquoi ces films-là nous ont soit marqués, soit on se reconnaît dedans, on reconnaît des traits de notre psychologie dedans. Bref, je vous laisse libre cours à votre imagination, à vos idées de se structurer comme vous le voulez. Mais L'important, c'est de tenter de montrer qui on est à nos auditeurs bien-aimés. Alors, j'ai envie de commencer avec André Jean, qui est notre nouvel arrivant. Donc, okay. André Jean, qui t'est joint à nous depuis quelques semaines. On connaît peu de choses de toi. On sait que tu n'es pas un fan de films historiques ou biographiques, mais c'est tout ce qu'on sait. Et j'ai envie d'apprendre, toi qui as pris même une sabbatique à travers les années dans ton écoute de films.
Plusieurs années de
plusieurs
d'arrêt,
années. Oui. Alors, j'ai envie de savoir, d'entrée de jeu, tes films qui t'ont le plus marqué ou qui te définissent.
Donc, je vais tenter de me dévoiler, hein, parce qu'on va être honnête. C'est difficile de tout régler ça, c'est-à-dire avec trois films. Il y a eu tellement de choses qui me sont popées ou qui me sont sorties de la tête. Je me suis dit, bon, qu'à cela ne tienne, on va redébuter. Donc, on me ramène dans mon passé. Hein, j'avais 10 ans à l'époque. Et je me définissais. Je commençais à m'établir un petit peu comme un homme de réflexion. Je ne veux pas être prétentieux avec ça, mais c'est un film qui m'avait profondément perturbé. C'est 2001, L'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick, qui est paru en 1968. Je vous ramène un peu dans l'histoire, ceux qui ne se rappellent pas. Donc, il y a eu une suite, bien sûr, avec L'Odyssée 2010. Un film, à la base, il s'agit d'un prisme rectangulaire qui est apparu sur la Lune et qui permet une connexion inexpliquée entre le passé et le futur. Il y a une expédition mystérieuse qui met les astronautes en opposition avec l'ordinateur de bord, hein, qu'on se rappelle, HAL, qui agit de façon incompréhensible, ce qui mènera à un affrontement entre l'homme et la machine qui repousse les notions de l'espace et du temps. Un film plutôt perturbant. Je pense que j'avais peut-être pas la maturité aussi pour essayer de comprendre, pas pour essayer, mais pour comprendre, parce que de toute façon, le film en tant que tel, je pense, demande une certaine maturité pour pouvoir comprendre les choses.
C'est très contemplatif. C'est pas un divertissement très accessible.
Après ça, ben, le plaisir d'écouter un film et d'avoir à sortir avec une réflexion ou à y penser après, c'est clairement de là que ça me vient, ça, sans hésitation.
Très intéressant. Et la science, j'imagine, aussi, jusqu'à un certain point.
Oui, mais ça, c'est la suite aussi qui s'en vient un petit peu plus. C'est-à-dire que je suis un individu qui aime l'inexpliqué ou la science-fiction de façon générale. Pourquoi? Je peux pas trop vous l'expliquer, mais lorsque j'ai découvert Alien, la première... Bon, là, il y a eu des suites, bien sûr, mais la première version là, de 1979 de Ridley Scott, les membres d'un équipage d'un vaisseau commercial, le Nostromo, sont sortis de leur sommeil cryogénique à mi-chemin de leur retour, en fait, pour investiguer sur un appel de détresse qui vient d'un autre vaisseau extraterrestre. Hein. Donc, on est dans une notion où c'est intergalactique, entre guillemets. Là. Bon, la terreur va s'installer dans l'équipage lorsqu'ils découvrent un nid à l'intérieur du vaisseau en tant que tel, finalement. Et donc, qu'un membre va tomber dans le coma suite à un contact avec une des créatures qui est sortie d'un œuf de ce nid-là, finalement. La crainte, la tension, la possibilité d'être autre chose que ce qu'on est, hein, quand on parle d'un univers où on prend de base que c'est un vaisseau dans les fins fonds de la galaxie qui est un vaisseau commercial, on part avec du sci-fi là, projeté dans un futur. J'avais adoré, en fait. Puis le petit côté horreur aussi qui venait me chercher, parce que là, je pensais à plein d'autres films d'horreur qui sont perturbants aussi, que j'ai adoré. Il ne faut pas oublier que les films de science-fiction motivent aussi beaucoup les chercheurs et les scientifiques à arriver à des résultats ou à essayer de développer des technologies, etc.
Non, c'est vrai, absolument. La science-fiction pousse la science.
Ça peut être instigateur, c'est ça.
Oui. Intéressant.
Fort intéressant. Donc, c'est de là que te viendrait cette passion, peut-être, pour la science.
Oui, tout à fait. Et ça, là, chronologiquement aussi, je vous ai pas dit à quel âge exactement. Là, je devais être dans le début de mon adolescence, donc passé 12 ans. Le temps passe encore un peu plus et j'arrive à une époque un peu plus rebelle, mais je ne me permets pas de le vivre dans ma vie personnelle, bien sûr. Je vais arrêter de faire grincer cette chaise merveilleuse. Pardonnez-moi, auditoire en délire.
Ça ajoute le son, les effets sonores d'Alien un peu.
C'est vrai?
Oui. Ouais. Ben, j'aurais dit autrement. En fait, j'aurais probablement dit il y a quelques temps ou il y a quelques années que j'étais un homme rebelle dans ces années. Mais non, je dirais plutôt que c'est un homme qui résiste aux idées préconçues qui s'est présenté à moi que je suis devenu et qui s'est manifesté dans ce film-là que j'ai vu qui s'appelle « C'est arrivé près de chez vous ». Ça, j'ai vu ça vers 16 ans, 17 ans, finalement. Film de Benoît Poulvorde, entre autres, de 1992. Donc,
on retourne en France, là, ou en Belgique.
Oui, en fait, c'est en Belgique. C'est en Belgique, une équipe de tournage qui suit un tueur à gages qui explique ses choix de cible, hein, parce qu'il choisit des moins que rien, en fait, des gens qui n'ont pas une grande influence pour être sûr de ne pas avoir de problèmes, lui, personnellement, dans sa petite affaire. Et donc, lorsque l'équipe de tournage le suit et lorsque les fonds pour ce documentaire qu'ils font sur lui commencent à manquer, ben l'équipe devient elle-même complice du fou furieux. Et c'est un film qui est d'une, comment je pourrais dire, profonde perturbation. On peut pas se sortir de ce film-là. Je sais pas si vous l'avez tous vu. C'est un incontournable en ce qui me concerne, dans le sens du malaise. C'est la première fois que j'étais choqué à ce point-là, finalement. Puis pourtant, tout est là. C'est-à-dire un homme qui vit à l'extérieur des règles normales, des concepts normaux. En fait, c'est un psychopathe purement et simplement, finalement. Mm-hmm. Mais l'équipe de tournage a comme but de rentrer dans son monde et se fait prendre dans les rouages. Donc, il y a une profondeur du malaise avec laquelle j'ai appris à vivre de façon générale et qui fait qu'aujourd'hui, ben, je reste cet homme-là qui résiste un peu au classique ou à ce qu'on veut bien qu'on pense.
Fort intéressant. Alors,
ça
voilà.
Ça permet de mieux te connaître.
Absolument. Donc, tes trois films dans l'ordre, c'était notamment 2001,
L'Odyssée 2010, j'ai triché un peu là. Et après ça, bien sûr, Alien.
La version de 1976.
1979, le premier. Et bien sûr, on termine avec C'est arrivé près de chez vous.
Eh bien, merci beaucoup, André-Jean. Mélina, de ton côté, les trois films qui ont fait de toi une autre personne.
Oui, donc le top 3 des films qui me représentent. Donc le premier, c'est selon moi le parfait exemple d'une histoire bien racontée. Donc j'y vais avec Harry Potter. Je ne pouvais pas mettre Harry Potter parce que pour moi, c'est une heptalogie qui retrouve tout ce qui me plaît dans une structure narrative. Et c'est aussi une très bonne adaptation cinématographique. Ça a une magnifique beauté artistique, une excellente qualité technique. Et c'est aussi un univers qui est très crédible, selon moi, dans le sens que les personnages sont tous cohérents avec eux-mêmes, avec leur personnalité, avec leur psychologie, et on n'a jamais l'impression qu'ils font des actions pour faire avancer l'histoire. Ils agissent comme ils agissent parce que c'est qui ils sont, au même titre que nous tous ici. Le type d'humour, la complexité des personnages, donc les divers rebondissements, l'immersion, l'originalité, mais le rythme, la beauté artistique, la qualité technique, la musique, l'ambiance sonore, le niveau de tension, tous les ingrédients essentiels d'un récit sont là, selon moi. Et comme je disais, le travail d'adaptation est également excellent, quoique variable d'un film à l'autre, dépendamment des réalisateurs. Mais ça reste pour moi un parfait univers créé et raconté au cinéma. Donc le deuxième film avec lequel j'y suis allée, c'est un documentaire que j'ai vu un peu plus tôt cette année. C'est Louise le cavalier sur son cheval de feu. Donc pour moi, c'est venu remplacer mes standards en termes de documentaire. Donc c'est un documentaire sur la danseuse Louise le cavalier. C'est un parfait alliage de mes passions, c'est-à-dire la danse et le cinéma. Et surtout, ce que je vois dans ce documentaire-là qui m'a beaucoup marqué, c'est le travail d'adaptation des chorégraphies pour l'écran. C'est tout simplement magnifique. Et pour une fois, la caméra devient au service de la danse et vient lui donner une couche supplémentaire de profondeur.
Ce qui n'est pas toujours facile.
Ce qui est très rarement réussi, selon moi, dans tout ce qui est la danse filmée. Parce que, de un, je suis extrêmement critique vis-à-vis de ça, c'est sûr, parce que pour moi, c'est très difficile de ne pas tuer l'esprit de la danse en la filmant, parce que la caméra se trouve maintenant dans une captation à choisir ce que l'œil voit, contrairement à une vraie performance où c'est notre œil à nous qui choisit ce qu'on voit. Donc, les choix de plan viennent, pour moi, réussir ou complètement échouer à représenter la chorégraphie à l'écran. Et dans ce documentaire-là, c'est la première fois que j'ai vu des captations de chorégraphies qui viennent s'enrichir mutuellement pour nous transporter vraiment dans l'univers de la danseuse et de la chorégraphe. On sait qu'elle-même chorégraphie ses propres pièces et qu'elle a travaillé également à l'adaptation à l'écran. Donc, on a là un travail qui est vraiment de maître, dont la forme du documentaire épouse parfaitement le contenu. Donc, pour moi, c'est venu complètement chambouler mes standards de documentaire, mais aussi de danse filmée, qui était quelque chose que je me plaignais depuis un certain temps.
Eh bien.
Donc, voilà pour mon deuxième film. Et finalement, le troisième film, pour moi, c'est le parfait exemple d'un film authentique. C'est le film L'Histoire de Jean-Christophe, qui est basé sur l'univers des aventures de Winnie l'ourson. C'est un film qui est sorti plus tôt cet été. C'est un film qui m'a profondément touchée et bouleversée. Comme je disais, pour moi, c'est un réel film authentique. On sent que le scénario et les thèmes abordés y partent d'émotions réellement vécues par quelqu'un, quelque part dans le monde, et ça permet de réellement être touché par ce film. C'est un film dans lequel il est très facile, selon moi, de s'identifier au personnage. C'est profond, c'est un véritable chef-d'œuvre pour moi parce que c'est le parfait exemple d'un film qui réussit pleinement sa véritable mission. Et pour moi, la véritable mission d'un film, c'est de communiquer quelque chose. Et dans ce film-là, c'est parfaitement fait. On nous communique une émotion qu'on sait et qu'on sent profondément qui a été vécue par la personne qui est derrière le scénario et la réalisation de ce film-là. Donc, un exemple de communication parfait, selon moi. Donc, voilà.
Avec du miel!
Très, très, très bon film, l'histoire de Jean-Christophe. J'ai beaucoup adoré, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce film-là. C'est à mon tour, donc, de vous parler de trois films qui me définissent et je vais vous dire pourquoi. Alors, j'ai eu beaucoup de misère, honnêtement, à choisir parce que j'ai hésité pour mon premier, j'ai hésité entre Cloud Atlas et La Matrice. Donc, Cloud Atlas, qui est mon film préféré et duquel je parle sans arrêt, je vais donc m'abstenir d'en parler cette fois-ci. Et j'ai choisi de remplacer ce film par La Matrice, le film Matrix, donc de 1999. La Matrice, c'est un film de science-fiction américain avec Keanu Reeves et c'est un film des frères ou sœurs Wachowski, selon le cours des événements. C'est toujours très difficile de savoir. Alors, un pirate informatique qui œuvre sous le nom de Neo fait la rencontre d'étranges personnes qui lui montrent une toute autre vision du monde qui changera à jamais sa vie et sa conscience. Film hautement métaphorique et critique des artifices du monde aujourd'hui. Le film qui m'a fait énormément réfléchir sur mon existence, sur l'existence des gens et qui nous donne, je pense, une certaine humilité. Donc, film fort intéressant, outre les effets spéciaux révolutionnaires pour l'époque. Donc, voilà. Pourquoi ce film-là me définit? Parce que je me questionne depuis toujours sur la vie, sur ce qui est réel, sur ce qui ne l'est pas. Je crois qu'il y a toujours des choses qu'on ne voit pas mais qui existent. J'essaie de comprendre le monde sans succès et je pense que le cinéma est une excellente façon de s'essayer et ce film-là m'a beaucoup inspiré. Donc, le film Matrix qui malheureusement a été suivi de films pas mal moins bons. Mais bon, c'est une autre histoire. En deuxième position, je vous propose un film québécois cette fois-ci qui s'appelle « La moitié gauche du frigo ». Un film qui date de 2000, un film, en fait, social, qu'on dit social, québécois, de Philippe Falardeau, avec Paul Amarani, Stéphane Demers et Geneviève Néron. C'est tourné comme un faux documentaire. Christophe est un chômeur de 30 ans qui cherche un emploi et Stéphane, son coloc et ami, documente sa recherche d'emploi sur vidéo. Premier film qui m'a captivé au niveau de sa forme et qui m'a fait découvrir que j'aimais vraiment le cinéma. Parce que ça m'a pris quelques dizaines de minutes avant de reconnaître les acteurs et de comprendre que c'était une fiction et non pas un reportage. Oui. Donc, c'est pour dire à quel point le faux documentaire est bien fait dans ce cas-ci. Le film, donc, ce film-là est à l'origine de mon désir de faire du cinéma et j'aurais certainement pas étudié dans ce domaine-là si j'avais pas vu La moitié gauche du frigo. Donc, ça me définit énormément. Et finalement, en troisième position, alors j'avais deux possibilités, encore une fois. Donc j'hésitais entre L'histoire sans fin, qui est un film qui a marqué mon enfance. Oui. Mais j'ai choisi de parler d'un film, bon, pas vraiment plus récent, mais un film d'animation du studio Ghibli qui s'appelle Nausicaa de la Vallée du Vent, ou Nausicaa of the Valley of the Wind, qui est donc un film du studio Ghibli qui nous a donné notamment La princesse Mononoke, Le voyage de Chihiro, et plein de films de cette envergure-là. Oui, merveilleux, tout à fait. Alors, je pense que c'est le premier film du studio Ghibli, Nausicaa. Film d'animation qui se passe dans un univers post-apocalyptique, un peu steampunk. Les habitants de la petite vallée où ils vivent toujours sont protégés contre la forêt toxique. La princesse de la vallée, Nausicaa, qui veut la paix entre les différentes factions et rétablir l'harmonie avec la nature. C'est un film très deep, pas du tout pour enfants, loin des films américains où le bien triomphe le mal. On sent bien que derrière le mal se cache l'incompréhension. On découvre que la pureté, l'ouverture d'esprit et le sacrifice de son individualité peuvent vaincre des conflits planétaires. Ce film-là me définit énormément par cette quête d'harmonie-là, par cette sensibilité humaniste que je recherche beaucoup dans le cinéma. Quand on est jeune, et même moins jeune, on a des héros, des modèles. On cherche, je pense, les valeurs virtueuses dans ces héros-là. C'est pour ça que c'est nos héros, parce qu'on aimerait intérieurement les capter, les intégrer, ces valeurs-là de vertu. C'est ce que ce film-là a fait avec moi à un âge où je ne cherchais plus consciemment à avoir des héros. C'est un chef-d'œuvre qui ne respecte pas les clichés traditionnels Et franchement, ça amène les choses d'un angle totalement différent. Donc, encore une fois, un chef-d'œuvre du studio Ghibli. Voilà, c'est tout pour notre top 3 des films qui nous représentent. Alors maintenant, vous nous connaissez, j'espère, un peu plus.
C'est une façon de voir, mais bien sûr, on est plus complexe que de trois simples films, bien
sûr. Exactement, c'était notre premier top 3 en gang. Alors voilà, c'est la fin de cette émission de Cinébrunch pour cette semaine. On se retrouve samedi prochain à 11h ou en rediffusion les mardis à la même heure. Donc, la semaine prochaine, d'ailleurs, avec la sortie du nouveau film Millennium, je vous propose, si ça vous intéresse, chers collègues, de parler du cinéma suédois et de bien d'autres choses. Sinon, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter en balado sur notre site internet, donc cinébrunch.com, ou encore sur vos applications podcast sur votre téléphone intelligent. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci André-Jean. Merci Mélina.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Bonne semaine.
Bonne semaine.